Un tableau à plus de 20 millions d'euros, bientôt restitué à un agriculteur français. Le tableau, c'est un Modigliani, spolié par les nazis à un antiquaire juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dernier collectionneur à l'avoir acheté doit le restituer à l'héritier légitime. C'est la décision d'un tribunal de New York. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois une historienne de l'art, spécialiste de l'art sous l'occupation, Emmanuelle Polak. Elle m'explique pourquoi l'histoire de ce tableau est restée si mystérieuse pendant plus de 80 ans. Elle me dit aussi comment on enquête sur les traces d'une œuvre d'art et ce que la France prévoit pour ses œuvres spoliées par les nazis, retirées à leurs propriétaires légitimes. Elles sont des dizaines de milliers au total. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. C'est le portrait d'un élégant marchand de chocolat, Georges Meynier. L'homme a un visage rond, les yeux un petit peu tombants, une fine moustache noire. Il est coiffé d'un chapeau, il porte une cravate et est en position assise, ses mains se reposant sur une canne courbée, d'où le nom de ce tableau, homme assis, appuyé sur une canne. Une huile sur toile, 126 cm de haut, 75 de large, estimée aujourd'hui à plus de 20 millions d'euros. C'est un grand format, peint en 1918 par Amadeo Modigliani. Tout cela, c'est une certitude, mais la suite de l'histoire a longtemps fait débat. En 1930, le tableau apparaît à la Biennale de Venise. Il est alors la propriété d'un certain Oscar Stettiner, un marchand d'art britannique installé à Paris. Il a sa galerie, avenue de Matignon.
La galerie était là, au 18 avenue de Matignon, dans ce quartier très prestigieux.
James Palmer, avocat à la tête de la société Mondex, spécialisée dans la récupération d'œuvres d'art volées.
Des deux côtés de la porte ?
Oui, je pense, des deux côtés de la porte. En lisant les publications de l'époque, on trouve des références au Stettiner. La famille était assez connue et assez respectée.
Le galeriste vend surtout des antiquités. Le Modigliani fait partie de sa collection personnelle. Mais voilà, l'homme est juif. En 1940, l'armée allemande entre dans Paris.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
La capitale est occupée, les juifs sont persécutés. Alors le collectionneur Stettiner, âgé d'une soixantaine d'années, se réfugie en Dordogne. En 1943, il est interné dans le Périgord, mais il échappe à la déportation dans les camps de la mort. Toutefois, pendant sa captivité, les Allemands prennent possession de sa galerie parisienne. Hitler a ordonné le dépeçage du patrimoine culturel français. Des trains entiers partent vers l'Allemagne, remplis d'œuvres d'art.
Ce qui est arrivé, à mon sens, c'est que les soldats nazis et les représentants de Vichy sont venus à l'appartement au-dessus et à la galerie. Et là, ils ont saisi tous les objets de valeur qu'ils pouvaient pour ensuite les vendre aux enchères. Et au milieu de tout cela, il y avait des biens personnels d'Oscar Stettiner, dont notre Modigliani, l'homme assis à la canne.
La collection d'Oscar Stettiner est donc liquidée lors de trois ventes organisées à l'hôtel de Rouault. Sans l'accord du galeriste donc, et le Modigliani est vendu 16 000 francs à un marchand d'art néerlandais, John van der Klip. En 1945, Oscar Stettiner revient à Paris. Il engage alors une requête en restitution devant le tribunal de la Seine. Il veut récupérer ses biens et son tableau, l'homme assis appuyé sur une canne. John van der Klip est alors interrogé. Oui, il reconnaît avoir acheté ce tableau, mais non, il ne l'a plus, il l'assure, il l'a vendu. Oscar Stettiner est dédommagé, mais il meurt en 1948 sans avoir jamais revu le Modigliani. Le tableau réapparaît à Londres en 1996. Lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's. La toile est alors acquise par un marchand d'art et collectionneur libanais, David Namad. Pas un débutant. L'homme d'une cinquantaine d'années a déjà alors une importante collection, 5 à 7 000 œuvres valorisées à plus de 3 milliards de dollars. Et pourtant, l'homme ne tilte pas sur l'origine du tableau. Or, selon le catalogue établi pour les enchères, ce Modigliani proviendrait d'une vente anonyme organisée entre 1940 et 1945. Sans compter que le tableau arbore une vieille étiquette collée sur son dos. Elle est peu lisible, mais on distingue le nom de Stettiner. Et puis l'homme qui le met en vente est un certain John Livengood, un descendant du collectionneur néerlandais Van der Klip, acheteur du Modigliani pendant la guerre. Mais à l'époque, personne ne cherche à creuser. Seul James Palmer semble avoir repéré ces incohérences. L'avocat que l'on a entendu, dirigeant de Mondex, spécialisé dans les recherches de provenance de biens spoliés, il assure la défense des familles et des héritiers, moyennant un pourcentage sur les prix des œuvres en cas de restitution, 30 à 40% pour des sommes qui peuvent parfois dépasser plusieurs millions. Et pour l'héritier d'Oscar Stettiner, il entame des démarches pour récupérer le tableau.
Oui, le scandale du Panama Leaks ou du Panama Papers, comptes justement, découverts dans des paradis fiscaux, ces avoirs.
Et puis en 2016, l'affaire des Panama Papers éclate. Les journalistes ont identifié plus de 200 000 sociétés écrans dans les archives d'un petit cabinet d'avocats panaméens experts en dissimulation offshore. Et parmi ces sociétés figure International Art Center, une holding propriétaire de plusieurs milliers de toiles entreposées dans les hangars des ports francs de Genève qui permettent d'y conserver des biens sans payer de droits de douane. Et pendant leur perquisition, les autorités suisses découvrent le tableau de Modigliani, l'homme assis. Le collectionneur libanais David Namad soutient d'abord que la peinture ne lui appartient pas, qu'elle est la propriété de cette holding. Mais les Panama Papers montrent qu'il est l'unique propriétaire de cette société. Il ne voit toutefois aucune preuve que le tableau est issu d'une spoliation.
J'adorerais apprendre qu'il a été spolié, j'adorerais savoir la vérité, mais toutes les recherches que nous avons faites démontrent le contraire. Moi, je veux être soulagé. De toute façon, Christie's va me rembourser.
Comment vivriez-vous le fait qu'il soit prouvé
si c'est
que
prouvé,
ce tableau
si c'est prouvé,
était spolié.
Je vous garantis que je retourne le tableau en courant.
Finalement, en ce mois d'avril 2026, la Cour suprême de l'État de New York a tranché. Oscar Stettiner était bien le propriétaire du tableau, tableau auquel le galeriste juif n'a jamais renoncé volontairement. Il revient donc au seul héritier, son petit-fils, Philippe Maestrachi, un agriculteur de 81 ans installé en Dordogne, dans le sud de la France. Il réagit à cette décision auprès du quotidien Le Figaro.
Après toutes ces années de procédure, ce que les Allemands ont fait à mon grand-père vient d'être réparé. Je suis surtout heureux pour lui et pour sa mémoire.
En fait, le juge américain estime que David Namad, le collectionneur libanais, n'a pu fournir aucune preuve pour identifier un autre propriétaire légitime que cet héritier, James Palmer de Mondex.
C'est un moment exceptionnel et une décision formidable, d'autant que la plupart des demandes de restitution d'œuvres d'art spoilées pendant la Shoah devant les tribunaux américains échouent. Ce succès est réjouissant et nous espérons qu'il sera utile à toutes les personnes concernées, y compris aux familles qui se lancent dans des demandes similaires auprès d'autres détenteurs.
Bonjour Emmanuel Polak.
Bonjour Zachary.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de l'art sous l'occupation. On vous doit d'ailleurs le livre « Le marché de l'art sous l'occupation » paru en 2019 chez Talendier. Ce tableau, l'homme assis, il est resté sous les radars pendant plusieurs périodes. D'abord jusqu'à cette vente à Londres en 1996, puis jusqu'à ce que les Panama Papers n'éclatent en 2016. Est-ce qu'on a vraiment perdu sa trace ou est-ce que finalement personne n'a vraiment cherché à savoir où il était ?
Eh bien écoutez, c'est très compliqué. D'abord, 1996, c'est une date importante, la date de la vente chez Christie's. À cette époque-là, on ne s'occupe pas de ce qu'on appelle la recherche de provenance. Vous voyez, moi je suis une historienne de l'art, mais je suis spécialisée dans la traçabilité des œuvres qui auraient été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je mets le curseur de mes recherches entre 1933, date d'arrivée d'Hitler bien évidemment, et 8 mai 1945, avec la fin de la guerre. Alors, ce tableau, imaginez-vous qu'en 2019, je m'en étais déjà un petit peu préoccupée. Pourquoi ? Parce que j'étais tombée sur les traces d'un certain John Van der Klip, un intermédiaire belge, né en 1887, mort en 1966, mais qui habitait Paris. Et donc, il est belge, il habite Paris et il a trois filles, Christiane, Maude et Raymonde. Et Maude et Raymonde ont un négoce de tableaux à Paris sur les Champs-Élysées. Et donc, pendant toute la période de l'occupation, elle travaille. Il se trouve qu'elle passe un petit peu à travers la période de l'épuration. Et c'est au niveau du petit-fils donc de John van der Klip, John Leavengood, qui est un des fils soit de Maud, soit de Raymond. Là, je ne peux pas être très précise, pardonnez-moi. Et ce John Leavengood est détenteur par héritage d'une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « L'homme assis appuyé sur une canne », peint vers 1918 par Modigliani. Et il a peut-être besoin d'argent, il veut se séparer de cette œuvre. Et en 1996, il la propose à la maison de vente aux enchères Christie's à Londres. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment cette œuvre a été acquise avant qu'elle n'entre dans l'héritage de John Leavengood. Et c'est là où c'est assez incroyable. Cette œuvre a été vendue dans une vente réalisée sous la contrainte des lois de Vichy par un administrateur provisoire en charge d'arianiser la galerie d'un certain Oscar Stettiner, né en 1878 et mort en 1948. Il est d'origine britannique, il est juif et il est basé à Paris, avenue de Matignon. Et donc, à l'occasion de cette vente, que moi je qualifie de vente spoliatrice, eh bien, par l'intermédiaire de John van der Klip, le père des trois filles, l'œuvre est acquise. Elle est acquise à un vil prix. Elle est acquise pour vraiment très peu d'argent. De mémoire, je crois que c'est 16 000 francs. Or, à l'époque, un Modigliani vaut déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et en 96, les recherches de provenance n'ont pas encore eu lieu. Les accords de Washington, qui sont vraiment, nous, les principes fondamentaux de la recherche de provenance sur les œuvres spoliées, seront signés en 1998 à Washington. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu avant cette période. Et donc, on ne s'intéresse pas à la traçabilité des œuvres acquises sous la contrainte des lois de Vichy à un sujet britannique juif basé à Paris qui sera arrêté un petit peu plus tard. Donc c'est là où c'est véritablement intéressant.
Le tableau est donc mis en vente par ce descendant négociateur néerlandais belge lors de cette vente en 1996 à Christie's et il est alors acquis par David Namat qui est lui un collectionneur libanais. Lorsqu'il acquiert ce tableau, il ignore que c'est une œuvre qui a été spoliée ou il feint de l'ignorer selon vous ?
Ah non, écoutez, selon moi, les auteurs de la grande faute sont la maison de vente Christie's. On doit savoir ce que l'on vend. Mais en 1996, on ne s'intéresse pas aux œuvres spoliées. Il faut attendre 1998, les accords de Washington, pour qu'on soit un peu plus vigilant. Mais vous savez, le marché de l'art est quelquefois opaque et je pense que David Namat l'a acquis en toute bonne foi et qu'il ne savait pas ce qu'il achetait véritablement.
David Namat, lui, a longtemps nié être le propriétaire de ce tableau, avant de reconnaître qu'il était bien le propriétaire, mais en niant savoir qu'il avait été acquis au cours d'une spoliation. Comment est-ce qu'il se défendait alors que vous semblez nous décrire une histoire assez limpide, finalement ?
C'est une histoire assez limpide parce que je suis spécialiste du marché de l'art sous l'occupation et que je connais les réseaux et que je connaissais le sieur John van der Klip, cet intermédiaire belge. Je connaissais le fait qu'il avait trois filles, dont deux étaient négociantes en tableaux à Paris, sur les Champs-Élysées, très proche de l'avenue Matignon. Donc, elles ont la possibilité de comprendre et de savoir qu'il y a une vente réalisée à la galerie d'Oscar Stettiner, qu'il est juif, qu'il est recherché, et donc, à ce titre, la vente est réalisée dans des conditions qui m'apparaissent injustes, véritablement, parce que cette vente est réalisée sous les contraintes des lois de Vichy. Tout d'abord, des autorités occupantes, bien évidemment, hein, qui persécutent les sujets d'origine juive, mais surtout par les lois de Vichy qui souhaitent arianiser tout bien appartenant aux familles juives afin de leur confisquer eh bien, leurs biens artistiques, culturels, mais également leur appartement, également la galerie. Donc, voilà comment je me l'explique, mais c'est parce que j'ai une spécialité. Je pense que les maisons de vente doivent vraiment se prémunir de cellules de recherche de provenance. Il y a actuellement beaucoup d'étudiants dont j'ai le grand plaisir de transmettre un petit peu cette passion de la traçabilité des œuvres, qui travaillent soit à l'école du Louvre, soit dans un DU à l'université de Nanterre, et qui ont la capacité de faire ces recherches. Donc, je pense qu'avant de proposer un produit sur le marché, il faut vraiment s'assurer que ce produit n'a pas été spolié et n'est pas issu d'une spoliation antisémite.
D'autant que cette période de spoliation court sur plus d'une dizaine d'années. Vous avez parlé de la période 1933-1945. Est-ce que l'on sait combien d'œuvres ont été spoliées pendant cette période par les nazis ?
Alors non, on n'en a pas une idée véritable. Je peux vous donner des chiffres pour la France, uniquement pour la France, mais j'ajoute que c'est une spoliation européenne, bien évidemment, tous les pays occupés. On parle de la Belgique, on parle des Pays-Bas, du Luxembourg, bien évidemment, et puis également de l'Italie. Donc c'est vraiment une spoliation européenne. Et pour ce qui est de la France, on peut parler de 100 000 objets culturels qui auraient été transférés de France vers l'Allemagne pendant cette période. 60 000 seraient revenus, 45 000 auraient été restitués lors de l'immédiate après-guerre, entre 1945 et 1950, aux familles, aux ayants droit, lorsque les familles avaient disparu, bien évidemment. Et puis, il reste à peu près 15 000 objets culturels qui, dès les années 50, 13 000 d'entre eux vont repasser sur le marché de l'art, vendus par les domaines, vendus par l'État français, alors qu'on a des suspicions de spoliation. Et il y a des commissions de choix composées de conservateurs qui vont sélectionner à peu près 2 000 œuvres confiées à la garde des musées nationaux. Ce sont les œuvres qu'on appelle les œuvres MNR, pour Musées Nationaux Récupération, issues de ces spoliations antisémites, et qui, pour la plupart d'entre elles, sont à la garde des musées nationaux. Et les musées nationaux ont maintenant l'obligation de rechercher les ayants droit. Mais pour revenir sur ce marché de l'art, dans les années 50, il y a à peu près 13 000 œuvres qui sont repassées sous le radar et qui repassent sur le marché de l'art sans que les personnes aient vraiment conscience que ces œuvres ont été spoliées.
Merci Emmanuel Polak d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup Zachary.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.